Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain très corporel et le retour de Bertrand Chameroy pour son écran de veille très bienveillant. Notre invité, c'est le rappeur, acteur Joey Starr pour le remplaçant nouvelle série de TF1 dont il a eu lui-même l'idée. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, on va partir à la découverte de l'artiste Requin Chagrin. C'est Angèle Châtelier qui va nous raconter son parcours et puis l'un des plus grands braquages artistique de l'histoire, racontée dans une série, Margot Barallon va tout nous dire. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes heureuse de retrouver Bertrand Chameroy.
Oui, je suis trop contente.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe, bonjour Eva.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille et vous êtes de retour après une semaine d'absence.
Je ne sais pas si j'ai manqué à Culture Média, mais à moi, Culture Média a manqué follement, éperdument, douloureusement.
Agréable.
Épargne-moi tes petits commentaires, Eva. J'ai vu ton manège avec Jean-Luc Lemoyne, Jean-Luc par-ci et Jean-Luc par-là. Et il est drôle, Jean-Luc. Et vas-y, que je fais des regards complices. Ça m'a fendu le cœur.
Oh.
Alors, pour soigner mon chagrin, j'avais donc besoin de bienveillance, de bonnes ondes. C'est pour ça que j'ai regardé C8. Oui, vous l'avez peut-être lu dans le JDD, la chaîne ambitionne de devenir une chaîne utile et solidaire.
Oui.
Vous en parlerez d'ailleurs cette semaine, Philippe, avec son directeur général Franck Appietto. Fini les reportages pimpons en boucle, terminez les polémiques. C8 veut devenir une chaîne bienveillante, familiale et feel-good, une chaîne cocooning avec des programmes dans lesquels on se blottit comme dans un plaid réconfortant. Première étape de cette mue, le lancement d'un nouveau programme le samedi à 10h, Ensemble on bricole, émission de Bricolage Bravo,
ah oui.
Animée par Caroline Iturbide. Et comme dans tous les programmes feel-good, le générique est sifflé.
On découvre ce générique avec vous. Bah oui, c'est une nouvelle émission sur C8. Salut Cyril.
Il découvre le générique en même temps que les téléspectateurs. Ils ont dû beaucoup s'investir sur la préparation, les animateurs, pour découvrir le générique à l'antenne. Alors, vous l'avez entendu, Caroline Iturbide est accompagnée de Cyril. Évidemment, on est sur C8, me direz-vous. Rangez votre mauvaise langue tout de suite. Il s'agit d'un autre Cyril. Cyril Julien, le pro des bricolos. Alors, à quoi ressemble cette émission Feel Good du samedi matin? Mais je vous propose d'écouter.
Est-ce que je pense bien?
Oui, c'est très bien, c'est super bien. Voilà. Là, c'est bon, il est parfait, tu peux arrêter. Hein.
Oh. Ah ouais, donc de la ponceuse à fond de balle un samedi à 10h du mat, c'est pas la première chose que j'associe au mot feel good. Après, ça reste toujours plus agréable à écouter que Jean Messia, c'est vrai, mais pas feel good quoi. Revenons à Cyril, le spécialiste du bricolage. Il a, selon l'animatrice, réponse à toutes les questions, mais il en pose aussi. Comme ici, à l'un des participants qui est champion du monde de pizza. Voici sa question plutôt pertinente.
Et ça consiste en quoi le championnat du monde de pizza? Je suis un peu curieux là.
Alors, comme ça, je dirais que c'est une compétition entre des pizzaiolos du monde entier. Ouais. Celui qui prépare la meilleure pizza remporte le titre. Après, je peux me tromper. Je le disais, Ensemble, on bricole est une émission feel good et ça se sent. Caroline Iturbide s'extasie devant tout. Elle trouve tout trop choupi.
C'est vraiment une émission papa-fille.
Oui.
Donc trop mignon. Virginie et Bernard, alors trop mignon.
On s'entend bien là-dessus, voilà.
Trop mignon.
Mais ouais, c'est mignon. Tout est trop mignon. C'est une émission feel good. Et quand on est feel good, tout est agréable à faire. Même repeindre les volets.
Oh, on fait aussi
qu'est-ce
les
que
bords.
C'est agréable à faire.
C'est cool, hein.
Oh là là. Ah ouais, ça détend carrément. C'est dommage que j'ai pas de volets chez moi, tu vois, parce que sinon, j'aurais fait ça tout le week-end.
Non,
c'est
non,
génial.
Là,
non, non.
C'est too much, Caroline. J'aurais fait ça tout le week-end. Mais c'est too much, mais on s'en fout. Parce que c'est quoi? C'est feel good. Voyez la vie du bon côté. Et prochaine étape de la transformation de C8, l'arrivée ce week-end de M comme Maison, la maison France, la maison C8, pardon, avec Stéphane Thébault. Un teaser était diffusé juste après Ensemble on bricole et les fans de la maison France 5 ne seront pas perdus puisque Stéphane n'a rien perdu de son côté acteur de films érotiques des années 80.
Mais dites-moi, on se connaît, me semble-t-il.
Oh, quelle belle approche. Normalement, après cette phrase, la secrétaire fait tomber son dossier par terre. Ah, je sens qu'on va se régaler avec ce nouveau C8.
Merci beaucoup, Bertrand Chameroy. Bon
retour. Il est
retour.
Trop mignon, Bertrand, vous trouvez
trop,
pas?
Trop, trop mignon. Vous disiez déjà ça de Jean-Luc. Attention, attention, attention. Eva, blague à part. Quel programme vous avez retenu en ce premier jour de la semaine et quel est le thème qui s'en dégage?
Alors, j'aurais pu dire le sexe, mais il s'agit surtout du rapport au corps. France 3 diffuse un documentaire bouleversant intitulé Sugar pour Sugar Baby, soit des jeunes filles ayant des difficultés financières et qui décident d'avoir une relation avec des personnes plus âgées et aisées, surtout. Parole de ces femmes.
Une sugar baby, c'est énormément émotionnel et psychologique, c'est sentimental. c'est « je suis ta petite copine ». C'est-à-dire que je suis ton soutien émotionnel. Si tu veux parler quand tu fais des cauchemars, je suis là. Si tu veux sortir au restaurant, je suis là. Si tu veux qu'on s'allonge dans un lit, je suis là. C'est H24.
J'avais déjà vendu tout ce que je pouvais vendre chez moi, en dehors de ça. Et là, en fait, j'étais arrivée à un stade où mon propre corps, ça me gênait pas de m'en détacher. C'est-à-dire que j'ai préféré vendre mon corps qu'un instrument de musique duquel je jouais plus depuis 6 ans. Mais parce qu'il avait plus d'importance pour moi à ce moment-là que mon propre corps.
C'est la réalisatrice Nina Robert qui a recueilli avec beaucoup de délicatesse les témoignages de ces jeunes femmes dont le destin raconte notamment la précarité des plus jeunes en France aujourd'hui. Sur Arte, c'est bien une histoire de sexe aussi qui sous-tend l'intrigue du film Wonder Boys. Tripp est un prof de littérature et auteur qui est en manque d'inspiration. Il vient de se faire larguer par sa femme, vraiment la journée pourrie. Et au cours d'une soirée, il va retrouver quand même sa maîtresse, qui est mariée à Walter. Tripp va pour lui annoncer enfin qu'il est célibataire, mais elle a aussi un petit truc à lui dire.
Ce matin,
je suis enceinte. J'en suis sûre.
Ça, c'est assez... C'est réellement surprenant. Est-ce que Walter le sait que tu...
Je crois que Walter trouverait ça encore plus surprenant.
Et alors, c'est que le début d'une suite de scènes où il n'y a rien qui va, avec une galerie de personnages tous un peu dingues. Une étudiante amoureuse donc de Tripp, qui est incarnée par un super Michael Douglas, un étudiant dépressif, le cadavre d'un chien au milieu, et un agent littéraire qui sort avec une personne trans, c'est complètement fou. De sexe, de trans et de corps, c'est aussi le sujet d'une excellente série espagnole à voir sur la nouvelle plateforme Brut X. Veneno raconte le destin incroyable de La Veneno, née garçon dans l'Espagne franquiste et devenue une star, une icône pour la communauté LGBTQ+, dans les années 90. La série et l'adaptation de sa biographie qui avait été écrite par la journaliste trans Valeria Vegas, qui, quand il était ado, était fasciné par ce personnage de La Veneno. Rencontre savoureuse d'ailleurs, entre cette star en fin de carrière et ce jeune homme se posant beaucoup de questions sur son identité.
Alors, comme ça, vous m'admirez ?
Beaucoup, et ça date pas d'hier.
J'ai un peu grossi ces derniers temps, mais pas qu'à me fait suivre un régime.
Oh non, vous plaisantez, vous êtes magnifique.
Vous avez toujours été sublime, et vous l'êtes encore.
Quand on m'a envoyé en tôle, je pesais juste 63 kilos. J'étais une poupée avec des nichons comme des obus. Vrai ou faux, pas
grave. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand elle est entrée en prison, elle avait une taille de guêpe. Aussi fine que Betty Boop. Et voilà ce qu'elle est devenue, la femelle de King Kong.
Alors c'est très réussi, il y a beaucoup d'humour, il faut l'avoir en espagnol, je vous la conseille. La série aussi entre la comédie et le drame, c'est une fiction jubilatoire et politique aussi parce qu'elle raconte la façon dont le pouvoir traite des personnes trans et à quel point le système médiatique peut détruire des êtres. Sugar est à voir sur France 3 à 23h, Wonder Boys c'est sur Arte à 20h50 et Veneno c'est quand vous voulez sur Brut X.
Merci beaucoup Eva Roque, merci Bertrand Chamerois et on vous retrouve, les bonnes habitudes se reprennent. Vous serez le matin à 7h40 pour votre chronique La Touche Âme dans la matinale de Mathieu Belliard. Dans un instant, on sera avec notre invité Joey Starr pour le remplaçant. J'en profite au passage pour saluer votre remplaçant Jean-Luc Lemoine. Mais d'abord, musique avec The Weeknd.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Joystar.
Bonjour.
Vous étiez en train de parler à votre portable, vous êtes rappeur, producteur, fondateur d'NTM et Cool Chain, figure du rap et même de la musique. Vous êtes devenu un acteur respecté et demandé, au point que vous débarquez ce soir sur TF1 avec une série que vous incarnez et dont vous êtes à l'initiative, s'appelle Le Remplaçant. Rien à voir avec le foot, c'est l'éducation. L'idée vient de vous, c'est TF1 qui allait vous chercher.
Ouais, ils sont venus me voir en me proposant un premier rôle, une série, premier rôle, blablabla, et à ce moment-là, j'étais sous coup d'une actualité, donc j'ai rebondi là-dessus parce qu'ils m'ont demandé est-ce que j'avais des envies particulières dans la direction, et je leur ai dit oui, en ce moment il y a une actu, c'était il y a 2-3 ans, c'était l'éducation nationale recrute, et donc du coup l'info c'était une jeune fille qui témoignait, qui expliquait qu'elle avait le bac à la fin de l'année, qu'elle avait eu un premier trimestre sans cours d'anglais, et qu'au bout d'un trimestre, il y avait quelqu'un qui s'était pointé, c'était une institutrice anglaise qui maîtrisait pas vraiment le français, et qui devait lui faire cours jusqu'à la fin de l'année. Et donc ça sous-entendait qu'en fait, il suffisait d'avoir le bac, un cursus, et il te faisait passer un stage, et derrière, tu pouvais transmettre le savoir. Donc, ouais. Je trouvais ça assez étonnant. Et je trouvais ça assez aussi intéressant. On pouvait prendre quelqu'un qui arrivait de on ne sait où, sans qu'on sache qui c'est réellement, et qui se retrouve à enseigner, et on le découvre au fur et à mesure.
Et là, le gars, en l'occurrence, c'est vous. On va parler de votre personnage. Juste avant ça, on écoute la bande-annonce.
Vous êtes le remplaçant?
Oui.
Je ne demande pas un prof décalé qui fait un comme les autres.
Je suis Nicolas Valère, votre nouveau prof de français.
Non mais genre lui, il est prof de français.
La prochaine fois que tu me prends pour un con, c'est la porte.
Il recrute des SDF maintenant.
Alors c'est toi.
C'est moi quoi?
La tête de con, il y en a toujours une au boulot. Vous me suivez ou quoi?
Dois-je vous rappeler que vous ne pouvez pas faire cours en dehors de votre classe?
Il paraît que je dois vous noter. Alors aide-moi, combien je te mets?
Monsieur, c'est bizarre votre truc.
Je me fais des soucis pour toi. Tu peux l'avoir ce concours, cache pas ton potentiel.
Non mais il se prend pour qui?
Je veux juste changer quelques méthodes, c'est tout.
Alors, on a reconnu les voix de Barbara Schulz, Elena Noguera, Stéphane Guillon. Que raconte le remplaçant et surtout, qui est Nicolas Valère, votre personnage?
Comme je le disais, quoi, c'est un peu quelqu'un qui arrive dans ses ou, et qui a, à mon avis, ce truc un peu que, je pense, doivent avoir tous ces gens qui s'inscrivent pour transmettre le savoir au départ. Il arrive un peu sur son cheval blanc, sauf que lui, il est pas très complaisant, ni avec les élèves, ni avec le système, ni avec...
Il a plus un cheval noir qu'un cheval blanc, c'est presque un punk.
Peut-être. Ouais, on n'a pas la même lecture, mais bon, voilà.
C'est pas un prof orthodoxe.
Voilà, c'est ça. Mais il est plein de bonnes intentions et finit par se les prendre dans la gueule, ses bonnes intentions, quoi.
Il remplace Monsieur Rieux. On va entendre votre première rencontre avec la classe, je pourrais presque dire votre première confrontation. C'est une classe que tout le monde redoute, c'est la seconde D. Pour faire taire le chahut, vous leur lisez un texte à voix haute, à voix très haute. Maintenant la suite.
De Romain Gary.
Je viens de vous lire du Romain Gary, La promesse de l'aube.
C'est quand qu'il revient, monsieur Rieux, s'il vous plaît?
C'est pas le sujet, là. Et si t'as besoin de t'exprimer, tu lèves la main d'abord.
Oui?
Il revient quand, monsieur Rieux?
On dit comique de répétition. Monsieur Rieux est malade, il ne reviendra pas. Et tu crois où, toi?
Il va aux toilettes, monsieur.
Il a levé la main, vous l'avez pas vu?
Oui, il peut parler, hein, je peux pas te bouffer. Allez, vas-y. C'est bon, on se calme! Est-ce que quelqu'un peut me parler du niveau de langue de ce texte? T'as quoi, toi? T'es demeuré ou quoi? Quelqu'un peut me dire de quoi parle ce texte?
De ta mère, non?
Oh putain, on dirait un mauvais podcast.
Non. C'est toujours comme ça, sans les images, et c'est tout le temps le risque de passer des extraits. Il y a une séquence dans laquelle vous faites cours dans le noir, une autre où vous emmenez des élèves dans un gymnase, ils doivent se faire des passes en hurlant des mots. C'était quoi votre inspiration? C'était un prof que vous avez connu ou c'était le cercle des poètes disparus?
Non, il y avait le cercle des poètes disparus, il y avait aussi un drama assez noir sur le système scolaire américain, un film qui s'appelle The Detachment avec Adrien Brody qui est sorti en 80, fin 90-2000, qui a pas eu une grande presse mais qui était assez exceptionnel, mais bien dark, c'était ça mes deux références en
fait. Voilà. Et vos profs, ils étaient comment?
Mes profs, les miens?
Ouais.
J'ai 53 ans, donc, et puis je suis pas très fétichiste, moi. Demandez-moi comment j'étais, moi, limite. Je pourrais dire que j'étais quelqu'un qui vous...
Vous savez quoi? Comment vous étiez, vous? C'est une partie de la réponse, c'est le portrait inattendu. C'est Hélène Manarino qui arrive. Culture Média continue. On a la chance et le bonheur d'être avec Joystar. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Joey Starr, rappeur et comédien à l'affiche du Remplaçant. C'est une nouvelle série, c'est une mini-série en 2 épisodes. Ça démarre ce soir sur TF1. Il va nous dire s'il y aura d'autres épisodes, 4, 6 ou 8. Je vous présente Hélène Manarino, si vous ne la connaissez pas déjà. Bonjour,
bonjour
Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Hélène, c'est le portrait inattendu, c'est maintenant, c'est à vous.
Bonjour Joey Starr.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, vous parlez beaucoup la nuit et un jour, en dormant, vous avez affirmé que vous souhaitiez le costume d'Iron Man. Vous avez aussi expliqué pourquoi, en dormant toujours, pour dormir dedans sans que personne ne vous voie et faire tous vos rendez-vous dans ce costume. Alors,
ça a l'air très ridicule comme ça. Mais comme en ce moment, j'ai une posture vraiment, on dirait que je me réinvente dans une carrière de vendeur de cravates. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un costume qui parle à ma place. Ouais.
Alors ce matin, c'était ça l'idée. Ce matin, je vous propose de détailler vos super pouvoirs. Et avant de commencer, réveillons le guerrier. Avec cette musique, c'est la musique de votre réveil. Une fois réveillé, après vous êtes endormi en regardant les vieilles séries policières américaines à la télé, il faut sortir de ce que vous considérez comme le meilleur endroit de la Terre, votre lit. Vous vous levez de manière très vive, certains diront comme Dracula, avec souvent une petite douleur quelque part, mais vous chopez votre peignoir, vos pantoufles et direction la cuisine.
Oui, oui.
Vous êtes en train de réfléchir.
Non, je viens de comprendre d'où vous tenez toutes ces informations.
Et d'ailleurs, Joey Starr, démarrons par vos incroyables aventures culinaires. Vous mangez toutes les deux heures, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, ça n'existe pas vraiment. Vous êtes capable de manger tout le temps. Il est possible de vous retrouver en cuisine à 8h du matin en faisant griller une entrecôte, par exemple. Mais au-delà de ça, cuisiner vous détend, vous êtes dans votre monde, vous pouvez rire en cuisine, vous énerver, mais surtout inventer. Votre super pouvoir, ouvrir le frigo et créer une recette avec tous les restes pour faire un plat unique. Attention, mieux vaut vous laisser, vous gérez seul votre épopée culinaire et ça part dans tous les sens. Joey Starr, vos super pouvoirs vont au-delà. Capitaine franchise, pas de gants, pas de masque, vous pouvez gaffer souvent, comme vous dites régulièrement, ce que vous pensez. Et cette expression que vous aimez prononcer, on l'entend moins, ta grande gueule. Et pourtant, ce que vous préférez, écouter les autres et mettre en valeur ce qu'on entend le moins. Adepte de la mauvaise foi, vous dites d'ailleurs que la mauvaise foi est un muscle chez vous. Une de vos armes secrètes, plus si secrète aujourd'hui, refaire les mêmes blagues en boucle, partager vos connaissances, surtout dans le domaine de la musique. Vous êtes une véritable encyclopédie, vous êtes sûrement la personne qui a le plus de musique dans son téléphone. Et en soirée, c'est à vous que l'on confie la playlist, surtout pour découvrir de nouveaux sons. C'est votre côté super pote, présent, fidèle, surprenant, avec aussi les surnoms que vous donnez à vos amis, des surnoms que vous adaptez à toutes les situations. Ajoutons à cela votre don pour trouver des ressemblances aux gens que vous rencontrez.
J'ai envie de me jeter en boule par terre.
Restez avec nous.
Joey Starr, transmettre est l'action que vous préférez avec ce dicton qui vous guide. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Vous aimez regarder vers l'avant, travailler la nuit, tôt le matin, réfléchir à vos projets à venir, mise en scène, émissions, films, séries, avec cette nostalgie que vous traduisez par le temps où l'on pouvait encore. En revanche, aucun regret, vous dites toujours, quand je serai grand, je voudrais faire exactement la même chose. Cap maintenant sur ce qui peut vous mettre en colère. Laisser une lumière allumée dans une pièce où l'on n'est pas, si ceux qui vous entourent sont bordéliques alors que vous, vous l'êtes un peu. Surtout quand il s'agit de la télécommande. Vous la perdez tout le temps. Mais surtout, la colère monte quand la télé ne fonctionne pas, avant un match du PSG. Joey Starr,
c'est normal.
Mais
ça arrive souvent, elle tombe en panne juste avant le PSG, votre télé.
Non, pas forcément, mais il y a toujours quelque chose qui grince.
Joey Starr, vous aimez soigner votre apparence, vous avez une panoplie de vêtements, chaussures. Vous dites d'ailleurs de vous que vous êtes une blogueuse, super-héros avec quelques peurs, notamment le vide. Alors vous avez le vertige, mais vous détestez aussi ne rien faire. Super-héros sensible, quelques larmes quand vous découvrez les images du film Suprême, qui évoque les débuts d'une de vos plus belles aventures, NTM, et puis de la douceur que vous trouvez sûrement dans les oursons à la guimauve. Ce qui peut vous détendre, vous occupez de vos 10 cactus, vous y faites très attention, surtout l'hiver. Mais Joey Starr, on ne peut pas ne pas évoquer votre rôle de super papa, rôle dans lequel vous ne serez jamais jamais remplacé. Papa fier de ses enfants, votre plus belle réussite, comme vous dites. Vous aimez les taquiner en leur posant des questions parfois gênantes. Vous les appelez tout le temps pour rien leur dire de particulier, juste l'essentiel, que vous les aimez. Vous aimez entendre la répartie de votre fils Marcello, âgé de seulement 6 ans. Des enfants qui vous accompagnent partout, en concert, en tournage, au théâtre. C'est votre crew, toujours avec vous. Et ce sont eux, vos super-héros. Alors Joey Starr, vous jouez le remplaçant, même si dans votre vie, vous avez souvent été le titulaire. Et s'il y a bien une chose qui est irremplaçable chez vous, c'est votre liberté.
Merci Hélène Manarino. Vous êtes reconnue dans ce portrait, vous ne vous êtes pas roulée en boule.
Non, j'ai failli. Mais je sens que je vis dans un climat délateur. Il y a plein de délateurs autour de moi. Donc, voilà.
Et la place des enfants, c'est aussi pour ça que vous avez.
Je ne sais plus qui dit que le jour où on a des enfants, on devient le protagoniste, le second rôle de sa vie, quoi. Ou alors on a le cœur qui bat ailleurs que dans son corps. Effectivement, c'est très vrai.
Ouais. Et savoir avec le fait que vous ayez fait cette série sur l'éducation, sur un professeur ou pas du tout.
Je pense que cette histoire de série, ce choix d'eux, c'est que, comment dire, moi j'ai arrêté l'école après la troisième et que les mots, je dirais pas les écrits, mais les mots en fait font partie de ma vie, de mon quotidien encore aujourd'hui, 30 ans après avoir entamé ce truc. Je dirais que NTM au départ c'est un truc d'hormones, de jeunesse et ainsi de suite, et qu'au final je me retrouve par exemple aujourd'hui à être metteur en scène pour la première fois d'une pièce de théâtre, donc encore les mots, le théâtre encore les mots, le cinéma encore les mots, le rap c'était les mots, donc voilà quoi.
Et après les mots, Hélène, vous aviez une mini surprise.
Ah bah oui, des oursons à la guimauve pour finir l'émission de Joey Starr, tenez.
Merci.
Oh le son, on vous laisse les déguster. On marque une courte pause, on va parler de nos premiers indispensables, ça sera de la musique. À tout de suite, Culture Média continue avec Joey Starr. Merci beaucoup Hélène, à demain.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Joey Starr, rappeur désormais comédien à l'affiche du Remplaçant, c'est une mini-série en 2 épisodes, c'est ce soir sur TF1. Hélène Manarino disait de vous, Joey Starr, vous êtes peut-être la personne qui a le plus de musique dans votre portable, on n'en sait rien, on ne peut pas comparer, mais vous avez beaucoup beaucoup de musique, vous écoutez quoi en ce moment ?
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? J'écoute beaucoup ce que j'ai fait avec Cut Killer, parce qu'on a fait, enfin, il a fait le scoring du film Suprême qui sort aussi pour le cinéma.
C'est un biopic, ça, c'est le film. C'est parce qu'il y aura un film et une série. On
c'est
va
ça,
en parler.
Exactement.
Et c'est Cut Killer qui a fait la musique.
Ouais, voilà. Donc, je suis à fond là-dedans, on est dans la réécoute et ainsi de suite, quoi.
Et c'est vous qu'on entend ? Vous avez refait des morceaux avec lui ou
non,
c'est
non,
les
non,
anciens
non, orchestrés ? Le parti pris de la Réal, en fait, elle a fait chanter les comédiens. Voilà, et en fait ça marche, ça fait plus que la blague quoi.
Chanter ou rapper?
Ah non, elle les a fait rapper quoi. Il y a le mimétisme de la scène et plus les voix au possible. Donc c'est Sandor Funtek et Théo Christine dont chacun.
Parce qu'il faut raconter, ce sont des jeunes comédiens
qui ne sont pas musiciens du tout au départ. Donc il y a eu à peu près un peu plus d'un an de coaching, voix, posture, tout ça, tac. Et ils s'en sortent super bien, quoi.
Et c'est votre choix de ne pas, comment dire, qui ne
c'est
mime
pas. C'est
pas
mon choix, c'est le choix d'Audrey Strougo, la Réal, quoi, qui elle dès le départ s'était dit, je veux qu'il y ait par souci d'authenticité, je veux pas que ce soit du playback, je veux que les types envoient le pâté, quoi.
Voilà, c'est pas. C'est...
Et donc et ça tient la route. Moi, ça m'a filé des frictions, quoi. J'ai eu les poils.
Voilà, ça sort quand ?
On ne sait pas, puisque on ne sait pas quand est-ce que les salles vont réouvrir. Si je vous donne une date, c'est que je rêve les yeux ouverts, enfin comme beaucoup, et j'en ai marre de rêver les yeux ouverts. Là.
Pardon, je suis moi-même allé trop vite. Est-ce que la BO peut sortir avant le film ?
Non, je pense pas. Non.
Bonjour Angèle Châtelier. On va parler de musique. Vous voulez nous parler d'une artiste. Elle a un pseudonyme. C'est une artiste. Elle s'appelle Requin Chagrin.
Oui. Et bien, écoutez un extrait quand même de son dernier album pour mieux la connaître déjà. Philippe vous rappelle un autre groupe.
Tellement les accords qui tournent comme ça en Anatole, l'écho, on dirait Indochine.
On dirait Indochine, ces voix avec beaucoup d'écho, vous le disiez, un peu ces synthétiseurs aussi.
Tu sais, je passais souvent l'été à guetter l'océan. À la vie, à la mort.
Ils l'ont enregistré dans la même salle de bain.
Ouais, non mais on dirait Indochine, sauf que la boîte rythmique a été remplacée par une vraie batterie.
Alors c'est pas étonnant, Philippe, que cette musique vous fasse penser à celle d'Indochine. Requin chagrin de son vrai nom, Marion Brunetto, la trentaine, a été repérée par Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, voilà, qui l'a signé sur son propre label.
C'est donc la même salle de bain.
Voilà, alors loin de moi l'idée de réduire une femme artiste à un homme, parce que Requin chagrin fait toute sa musique toute seule, et c'est ce qui en fait sa splendeur. Elle a chez elle un paquet de matos, comme vous j'imaginez. Comme vous, j'imagine Joey Star, hein, des pianos en tout genre. Elle passe des heures à fouiner sur Internet à la recherche de nouveaux matériels, au point même de faire parfois 7 heures de train pour aller chercher un instrument sur le bon coin, on l'imagine.
Ouais, faut être motivé.
Faut être motivé, et elle l'est. Et au-delà de faire de si longs allers-retours en train, Requin Chagrin vient de sortir son troisième album appelé Bye Bye Baby. La musique de Requin Chagrin a toujours été comme ça, très lunaire. Elle parle beaucoup des rêves, de l'envie de prendre le large aussi. Cet album a été écrit pendant le premier confinement, comme beaucoup. Là où justement, elle avait d'autant plus envie d'ailleurs. Et ça l'a inspirée, vous allez l'entendre.
Ça me donnait encore plus envie d'aller ailleurs, quoi, comme beaucoup de gens, de s'évader. Je passais beaucoup de temps à regarder par la fenêtre en composant. C'était un peu ma fenêtre, voilà, vers l'extérieur. Et sur cet album aussi, j'avais envie d'évoquer un souvenir d'enfance qui est voilà, le moment autour du 15 août où on peut observer des étoiles filantes, une nuée d'étoiles filantes. Ça s'appelle, le phénomène s'appelle les Perséides. Quand j'étais petite, souvent on prenait le temps le soir avec mes parents et des amis de s'allonger, de regarder et de faire des vœux chacun de notre côté.
La pochette de son nouvel album, c'est le dessin d'une voiture rouge dans la pénombre, garée face à une rivière, la lune en évidence, la ville au loin, ce qui donne envie quand même de rêvasser, et son album peut nous y aider. Je lui ai demandé dans quelle disposition il faut être pour l'apprécier au mieux. On l'écoute.
Alors pour faire un clin d'œil à la pochette, je dirais dans la voiture en roulant de nuit. Je trouve que ça irait plutôt bien. Oui, pourquoi pas la nuit, enfin avec une sensation un peu de vitesse.
Si on n'a pas de voiture, comme moi, hop, on le met chez soi, idéalement quand il commence à faire nuit. Ça, c'est mon petit conseil à moi.
Ça vous a plu, Joey Star? Ça vous fait sourire, en tout cas.
Non, mais j'allais faire une mauvaise blague. Ça donne envie d'aller voter Sarkozy, mais c'est méchant. C'est juste pour rire, voilà. Non, mais il y a énormément d'effets, quoi. C'est pas très gai, tout ça.
Non, mais on adore la mélancolie
c'est
aussi.
Ouais. c'est comme une mélancolie, ouais, de salle de bain. Ouais.
Voilà.
Je me permettrai pas de. Voilà, c'est beau.
Angèle, donc c'était Bye Bye Baby, la mélancolie, c'est votre spécialité musicale. C'est le nouvel album de Requin Chagrin et elle sera l'invitée d'Émilie Mazoyer dans l'émission Musique ce mercredi 14 avril. On écoute un titre.
Et on l'écoute. Voici donc Requin Chagrin. Voici son titre déjà vu sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Joey Starr, musicien, rappeur, mais également comédien, le remplaçant mini-série en 2 épisodes qui l'incarne. L'idée vient de lui. Ça démarre ce soir à 21h. Et on va continuer à parler de séries avec vous, Margot Barallon. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Margot, ce matin, vous intéressez à une mini-série documentaire disponible sur Netflix, série qui revient sur l'un des casses les plus spectaculaires de l'histoire.
Oui, ça s'appelle tout simplement Vol au musée. Et c'est donc l'occasion de revenir sur l'histoire du cambriolage du musée Isabella Stewart Gardner à Boston. Nous sommes donc le 18 mars 1990, le soir de la Saint-Patrick, lorsque 2 hommes déguisés en policiers pénètrent dans le musée. Ils vont ligoter les gardiens et voler 13 œuvres d'art. Il y avait notamment des tableaux de Rembrandt, Degas, Manet, un Vermeer. Bref, il y en a quand même pour $500 millions au total.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien justement, on ne sait toujours pas aujourd'hui et c'est ce mystère que raconte la série. Elle s'intéresse évidemment aux principaux suspects et notamment à l'un des 2 gardiens du musée, celui qui a laissé entrer les faux policiers.
2 mois et demi avant le cambriolage, il avait fait entrer des gens à l'intérieur du musée, à minuit, le 1er janvier, pour fêter le nouvel an. Il était complètement défoncé, sous l'emprise de drogues psychédéliques. Vous vous rendez compte ?
Alors l'homme qui parle dans cet extrait, c'est un journaliste d'investigation du Boston Globe et la série a obtenu comme ça de nombreux témoignages des journalistes donc, mais aussi des policiers, des avocats et même Miles Connor qui est l'un des plus célèbres voleurs de tableaux américains et qui vient donc apporter sa petite expertise.
Mais là on se demande de ce qu'on entend, c'est pourquoi voler de tels tableaux aussi prestigieux puisqu'ensuite il est impossible de les revendre.
C'est surtout qu'ils les ont découpés au cutter.
Ils les ont découpés au cutter.
Ouais, j'ai commencé à regarder moi mais j'ai trouvé le temps trop long.
Alors, il est effectivement, Philippe, impossible de les revendre. Et donc, pourquoi les voler? Eh bien, c'est une excellente question posée dans la série à l'avocat de nombreux voleurs.
Pourquoi les gens volent des œuvres d'art? Pour diverses raisons. Parce qu'ils veulent continuer à la regarder? Parce qu'ils veulent toucher la récompense ou l'argent de l'assurance? Parce qu'ils veulent éviter d'aller en prison? Parce qu'ils veulent faire sortir quelqu'un de prison? C'est une très bonne monnaie d'échange.
Et voilà, et c'est bien parce que ces œuvres sont une monnaie d'échange qu'on a rapidement soupçonné les grandes familles mafieuses de Boston d'être impliquées dans ce cambriolage. D'autant que le vol de tableaux, c'est aussi souvent lié au trafic de drogue. Ça, c'est le fameux Miles Connor qui nous l'explique.
Imaginons que vous ayez un gros arrivage de cocaïne. Disons 20 kilos. Le problème, c'est que vous êtes un peu à court de liquidité. Vous n'avez que $20,000 à mettre dans l'affaire. Mais en revanche, vous avez plusieurs millions de dollars d'œuvres d'art volées. Vous allez donc mettre ces œuvres d'art en gage. Et on ne vous les rendra que lorsque vous aurez remboursé l'argent que vous devez pour la cocaïne.
Voilà, moi ce que j'ai trouvé très réussi avec cette série, c'est qu'au-delà de l'histoire du casse, de l'énigme elle-même, on va comme ça plonger dans les méandres de la mafia bostonienne.
Mais du coup, après on va donner la parole à Joey Starr, parce qu'il a plein de choses à dire. Déjà cette histoire d'achat, mais est-ce qu'on a une idée du coupable à la fin de la série?
Alors il y a en tout cas une piste très très sérieuse qui est évoquée, je vous laisse la découvrir. Les réalisateurs ont quand même réussi à retrouver quelqu'un qui a vu un tableau après le vol. C'est la belle-sœur de l'un des mafieux de Boston.
C'était un cadre très chichiteux, un cadre de femme. Ça n'allait pas du tout dans une garçonnière. Je lui ai dit, il faut vraiment que tu trouves un autre cadre. Et il m'a répondu, non, je voulais être sûre des mesures avant. C'était vraiment moche. Sans même parler de ce cadre chichiteux. Il était vraiment hideux, ce tableau. Moi, c'est pas ce que j'appelle une œuvre d'art.
Alors, ce tableau hideux, hein, c'est
pardon,
quand même un tableau
te couper,
de
c'est quoi,
Manet.
C'est quoi qu'elle veut dire chichiteux?
Chichiteux, qui
trop
en fait
délicat.
trop délicat.
D'accord, ok.
Il est doré, voilà. Elle n'aime pas le cadre.
J'ai bien fait de venir. Okay.
Donc ce cadre chichiteux et ce tableau moche, c'est quand même un Manet qui vaut des millions. Alors cette interview, elle est très importante parce qu'en fait, elle illustre le dernier espoir de récupérer les tableaux. C'est qu'un proche des voleurs retrouve une œuvre quelque part, dans un carton, dans une cave. C'est souvent comme ça qu'on récupère ce genre d'objet. Le musée offre toujours 10 millions de dollars de récompense à quiconque rapportera ces trésors disparus. Donc si vous voulez vous faire un peu d'argent et vous lancer dans l'enquête, eh bien commencez peut-être par regarder cette petite série Vol au musée, 4 épisodes sur Netflix.
Merci beaucoup Margot Barallon, si j'ai bien compris, vous avez commencé par la regarder, vous avez arrêté en cours de route.
Ouais, je devais avoir un truc sur le feu, je sais pas.
Et là vous étiez en train de sauter de en entendant cette histoire de cocaïne et de tableaux volés.
Bah non, tu veux acheter 20 kilos de cocaïne et t'as que 20 000 dollars. Enfin, c'est très étrange comme qu'un flic dise ça, en fait.
Ouais. Parce que moi, pardon, nous on connaît pas les prix. Enfin,
moi je connais pas les tarots, mais 20 000 dollars, 20 kilos, ça m'étonnerait, quoi. Enfin, voilà. Pardon.
Voilà. Netflix bien rhabillé pour l'hiver. Merci Joe Star, vous restez avec nous. On va parler de cette série et plein d'autres choses encore, puisqu'il y a deux biopics autour de la vie d'NTM, un film et également une série sur Arte qui va s'appeler Le Monde de demain, si je m'en souviens bien. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Joey Starr, à l'affiche du Remplaçant. Le Remplaçant, c'est une mini-série en 2 épisodes qui passe ce soir sur TF1. L'idée vient de vous. Au générique, vous êtes en plus crédité de dialogues additionnels. Des dialogues additionnels, ça veut dire quoi? C'est vous qui avez réécrit des parties?
Non, réécrit non, mais je me suis accaparé le texte. Enfin, je l'ai un peu sculpté de manière à ce que je sois le plus à l'aise possible. Tout ça avec.
Mais également celui des autres.
En accord avec le scénariste.
Également le texte des autres ou juste votre texte, comme par exemple Corinne Maziero dans Marlowe.
Non, pas autant que Corinne. Je sais comment Corinne bosse. Non, pas autant. Non, mais parfois, oui, certains échanges qui peuvent un peu grincer à l'oreille, c'est un peu une musique, hein, tout ça. Mmh. Donc, quand ça grince un peu, voilà, on en reparle et voilà.
C'est une pré-série en 2 épisodes ou une mini-série. Ça veut dire que si ça marche bien, TF1 pourra en commander 6 ou 8 ou 10?
Bah, pour l'instant, on est parti pour tourner une suite en juillet. Voilà, mais puis après, qui vivra verra, quoi. On verra déjà ce qu'on fait ce soir, quoi.
Exactement. Vous attendez les résultats demain matin. J'ai pas eu le temps de vous demander tout à l'heure, mais quel genre d'élève vous étiez?
Moi, j'étais. Moi, déjà, j'allais à l'école pour de mauvaises raisons. Moi, j'ai eu un père qui a pas eu la chance d'aller à l'école comme il entendait. Donc, le fait d'y aller déjà, de passer les portes d'eux, pour lui, c'était juste bam. Sauf que ses enfants, on les envoie pas juste à l'école, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'avant et l'après. On les accompagne un peu comme pour tout dans la vie. Donc, moi, j'y allais, comme je disais, pour de fausses raisons. J'y allais pour qu'on me foute la paix. Ouais. Et du coup, ça faisait pas de moi quelqu'un de très brillant, quoi.
Ouais. Et pour vous débarrasser, vous dites qu'il vous a, il s'est pas tellement intéressé de vous. Et quand on vous entend parler d'éducation, moi, je me souviens d'un spectacle que vous avez joué au Théâtre du Rond-Point, le spectacle Éloquence à l'Assemblée. On peut pas s'empêcher, désormais, de penser à un énorme titre de NTM. C'est en 98 et c'est le titre Laisse pas traîner ton fils.
Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines, surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranche à les liens familiaux chaque jour un peu plus. J'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer, donc j'ai dû renoncer. Trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse, mais laisse pas traîner ton fils.
Et là, vous me voyez venir. La bonne nouvelle, c'est que l'histoire ne se reproduit pas toujours. Et Hélène Manarino l'a dit, vous occupez beaucoup de vos enfants. Vous ne laissez pas traîner vos fils.
Ah, je m'occupe beaucoup de mes enfants. Je ne vis pas avec eux, mais oui, je suis là pour eux.
Enfin, pour l'éducation, en tout cas.
Ouais, enfin non, mais j'estime surtout que voilà, ces gens n'ont rien demandé, n'ont pas demandé à supporter nos histoires. Donc on se doit d'être là pour eux. Et puis je pense qu'on en a pour toute une vie. Hein. Voilà, moi je les aime comme ça. Enfin, chacun son truc.
En parlant d'éducation, c'est pas votre première incursion dans le monde de l'éducation. Il y avait une initiative très originale, ça s'appelait StudyTrax, qui vous avait demandé des cours d'histoire, des cours de philo, mais en musique, c'est ça?
Alors c'était pas des cours. En fait, c'est une révision.
Ouais.
C'est-à-dire que on va dire que c'est vraiment un outil de révision et non pas d'apprentissage, quoi. Faut quand même avoir suivi le programme, voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et effectivement, voilà, en musique, donc il y a par exemple il y a aussi le théorème de Pythagore qui est fait par Soprano,
ouais.
Qui est assez technique d'ailleurs.
Ouais.
Voilà, entre autres, moi j'ai fait plutôt de l'histoire de la philo.
Exactement. Qui était le capitaine Dreyfus? Réponse de Joey Starr, et je peux vous dire que ça change du Collège de France.
Bienvenue sur StudyTrax. Histoire, l'affaire Dreyfus.
C'est Joe Star. Le capitaine Dreyfus, alsacien d'origine juive, est accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Jugé et condamné sans preuve pour trahison, il est déporté en Guyane à perpétuité. Il est la cible de l'opinion publique antisémite. Seule sa famille croit en son innocence. En 1896, le colonel Picard trouve le vrai coupable, mais l'état-major refuse de revoir le jugement et étouffe l'affaire.
Voilà, comme ça on connaît l'histoire de Dreyfus.
La difficulté de ce truc, c'est qu'en fait, c'est des enseignants qui l'écrivent et qu'il faut quand même... On peut pas se permettre de rajouter des choses dedans, de le déconstruire, parce qu'il y a le fil de l'histoire et que c'est fait pour être écouté. Donc kicker le plus simplement possible pour que ce soit accessible à tous.
Évidemment, on en a parlé, il y a un biopic qui va être consacré à NTM, ça va s'appeler Suprême, une série sur Arte, Le Monde de Demain. Vous avez eu votre mot à dire sur les deux, sur le casting, sur l'histoire, ou ça vous a échappé ?
Disons que j'ai participé à l'écriture pour le Suprême. J'étais avec Cut Killer sur le scoring. Le scoring, c'est la musique qu'on fait sous les images pendant un film. Je participe à la scénarie et au dialogue aussi sur la série.
Et on vous voit ?
Pas du tout.
Ça raconte juste le début d'NTM.
On va peut-être inventer les pizzas vite fait, qu'on passe comme ça.
Non,
mais, non, mais c'est surtout que, en fait, c'est des séquences. J'avais pas envie, par exemple, qu'on ressemble à ce film là sur Netflix où on a De Niro et machin tac tac où ils sont tous en morphing sur le visage, mais ils ont tous des corps de vieux ou machin. Enfin bon, c'était pas l'idée. Non, nous on n'apparaît pas. On a pris des gens pour jouer nos rôles et ainsi de suite.
Dernière question, le cinéma, on ne sait pas quand ça va sortir puisqu'on connaît pas la date de réouverture des salles, mais la série sur Arte, ça sera diffusé quand, vous le savez?
Non, je sais pas. Je sais qu'il faut qu'on rende tout pour novembre.
D'accord.
Prochain.
Donc la seule info qu'on vient d'avoir, c'est que tout n'est pas rendu. Merci beaucoup Joey Star. Je rappelle, Le Remplaçant, c'est une mini-série en 2 épisodes. C'est sur TF1. C'est ce soir à 21h. Et il y a une chose que je n'ai pas dite et volontairement, c'est qu'il y a un twist énorme au milieu. Vous verrez ça. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on revient demain à 9h pour Culture Média. On va parler de Lumnier, de Zimzin. Mais justement, ce sont des programmes jeunesse de France Télévisions. Mais éducatif, nous serons avec les animateurs Alex Good et Marie Palot, et puis l'un des écrivains français les plus lus, Laurent Gounel. Il s'est intéressé à l'intuition, mais au sens scientifique du terme, vous dire que c'est antinomique, vous comprendrez tout, c'est dans son nouveau roman. Juste après le flash, Anne Roumanoff, ça fait du bien, à demain. Merci encore, Joey Star, et vraiment, franchement, quel look, quel masque, bonne journée sur Europe 1.
Merci.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.